Quelle histoire ! J'avoue avoir vécu des heures très intenses lors de la préparation de cette prédication. Intense dans la colère, face à cette porte fermée et du désaveu qui va avec. Je ne vous connais pas. Dans la colère aussi de cette incohérence avec d'autres paraboles d'accueil et de pardon. La parabole du fils prodigue, qui lui aussi était de la famille des inconséquents, des têtes brûlées. Et le père non seulement lui ouvrit la porte de la demeure familiale, mais il courut au-devant de lui. La brebis perdue, qui ne devait pas avoir souscrit d'assurance sauvetage. Et pourtant, le bon berger laisse là les 99 autres brebis bien raisonnables pour aller la chercher et la ramener sur ses épaules. Incohérence aussi avec d'autres passages d'évangile. Ne vous souciez pas du lendemain. N'amassez pas. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Mais ça, c'était au début, quand je croyais que c'était la pénurie d'huile qui condamnait les jeunes filles insensées à trouver porte close. Je me suis donc précipitée, toujours en colère, sur quelques interprétations de cette parabole. J'ai questionné notre pasteur, des proches, des amis de confiance, pour écouter leurs ressentis, comme on dit, et surtout savoir s'il était possible d'entendre une bonne nouvelle dans ce récit. Et je ne faisais que buter sur cette porte fermée, avec derrière les 5 jeunes filles bien sous tout rapport qui avaient refusé de partager les 5 pains et 2 poissons qu'elles avaient en réserve. Au secours. Tout se bouscule dans ma tête et dans mon cœur. Je suis submergée. Dans ce désastre, une image vient à ma rencontre. Celle de Jésus, dans le bateau, en pleine tempête, avec ses amis au comble de la panique. Et lui qui dort. Et cette paix incompréhensible me sauve. Ce qui va me permettre d'accepter de laisser tomber ma colère et d'aborder le texte presque sereinement. Au gré de mes recherches, j'ai rencontré des interprétations en tout genre. Certaines m'ont paru moralisantes, mais pourquoi pas. D'autres, un peu aventureuses, cherchant à atténuer ce texte rude. En supposant par exemple que les 5 insensés auraient pu profiter de la lumière des avisés. Ou bien que la porte s'ouvrira plus tard. Ou bien encore qu'elles auraient dû attendre l'époux et lui dire, reconnaissant leur indigence, qu'elles n'avaient pas de réserve, s'en remettant alors à sa miséricorde. Pourquoi pas, là aussi, mais cela serait une autre histoire. Et celle de Matthieu, unique dans les 4 évangiles, ne cherche pas à esquiver la question du salut. Il esquive si peu que les chapitres 24 et 25 de son évangile abordent de manière très radicale cette question. Question de vie ou de mort, pourrait-on dire. Et nous voudrions bien savoir le pourquoi du comment de cette sorte d'examen de passage. Certains se posent la question jusqu'à l'angoisse. Et je pense au jeune Luther. Luther, quand il était jeune, était torturé par cette question. D'autres se posent la question jusqu'à la révolte ou à l'absurde. Les textes comme la parabole que nous étudions ne sont pas pour moi des textes pour savoir ce qui se passera après la mort ou même au jugement dernier. Ce sont des textes pour la vie et pas la vie triste, angoissée sous la menace d'une punition. La vie pleine, la vie libre, la vie responsable. Alors, je ne sais pas si Matthieu s'y prend bien. Disons que ces récits de fin des temps faisaient partie de la culture ambiante. Les lecteurs, auditeurs de l'époque, ne devaient pas être anéantis par ces paroles, ce qui n'était pas le but d'un évangile. Les paraboles, encore maintenant, ne sont pas utilisées pour faire la différence entre l'intelligence et la bêtise, mais entre la foi et le rejet. Sachant que nous avons tous ces aspects en nous, intelligence, bêtise, confiance, incroyance. C'est Alphonse Maillot qui écrit quelque chose comme ça. Élian Cuvillier le dit un petit peu autrement. La parabole libère le lecteur du champ de la logique. Eh bien, maintenant que nous sommes libérés, pouvons-nous recevoir une bonne nouvelle de ce texte ? Je vais partager avec vous mes découvertes. En fait, je n'ai rien inventé, mais j'ai beaucoup reçu des autres. Bien sûr, certaines interprétations me parlent plus que d'autres. Toutes insistent sur le dernier verset. Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. La parabole étant l'illustration vivante de cette injonction. J'ai bien aimé l'interprétation d'Élian Cuvillier qui commente ainsi. Tu ne sais ni le jour ni l'heure où le Seigneur se manifestera dans ta vie. Alors, sois présent à ce moment-là. Pour lui, en effet, les cinq jeunes filles insensées sont tombées sur la porte close, non parce qu'elles n'avaient pas de réserve d'huile, mais parce qu'elles n'étaient pas là quand la porte était ouverte. C'est une distinction qui compte, même si nous connaissons les raisons de leur absence. Pour Élian, il s'agit d'être présent plus que de posséder. Pour beaucoup de commentateurs, l'huile, c'est l'esprit ou la grâce. Et il semblerait que l'esprit ne se partage pas. Là, j'en suis pas certaine, j'ai mis 3 points d'interrogation. James Woody, pasteur à l'oratoire du Louvre, essaye de contourner la question et propose de rester groupés. C'est-à-dire de nous mettre au bénéfice les uns des autres, une humanité solidaire. Pour lui, le verbe traduit par « veiller » serait plutôt à traduire par « faites corps ». Et nous éviterions ainsi la dispersion qui fait que la moitié des jeunes filles se retrouvent à la porte. Pour Marc Pernaud, il s'agit de faire des réserves de bénédiction tant qu'il fait jour, car la nuit peut être mauvaise. Il parle aussi du cri dans la nuit, annonçant l'arrivée de l'époux, comme d'une résurrection qui surgit. Les jeunes filles insensées l'entendent, mais n'y croient pas, n'y croient plus. À ce moment-là, les jeunes filles avisées ne peuvent pas croire pour leurs camarades, ne peuvent pas vivre leur vie à leur place. Jusqu'à maintenant, nous sommes quand même restés dans la logique du texte. Mais prenons un autre point de vue et considérons que les 10 jeunes filles ne sont qu'un seul individu, avec ses parts de confiance et de désespérance. Alors le jugement prendrait un autre sens. Ce qui reste dehors, c'est l'indifférence, c'est le défaitisme, le renoncement au désir. Ce que le Seigneur ne connaît pas, c'est tout, c'est à quoi bon. Tout, c'est ça ne changera jamais. Tout, c'est je l'aurais parié. Il est bon d'entendre de manière un peu musclée dans cette parabole que le Seigneur rejette ce qui nous empêche d'aller vers la vie. Le moment est peut-être venu de dire ce qu'il en est pour moi. Vous aviez compris que cette parabole me provoquait. J'étais tellement enfermée dans ma colère que je ne pouvais rien entendre de bon. Et puis, quelque chose, quelques-uns, quelqu'un m'a tiré de là, sans menace, doucement, comme quelqu'un qui dort dans la tempête. Et j'ai entendu ce que mes frères, mes sœurs recevaient de ce texte. Et c'était bon. C'est un bonheur exigeant de partager la parole avec d'autres. Que le Seigneur bénisse ces échanges et qu'il nous soutienne dans la veille et dans la prière. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter. J'ai choisi comme cantique un appel à l'esprit. En effet, Jésus a dit qu'il n'y avait qu'une seule chose à demander, c'est l'esprit. Alors nous chantons avec le cantique 35-15. Viens, esprit de sainteté.
Du Père.